Chapitre 8. Le plan Seldon. Mathématiques. La synthèse des calculs comportant n variables dans une géométrie à n dimensions constitue la base de ce que Seldon appela un jour « ma petite algèbre d'humanité ». Encyclopédia Galactica. Imaginez une salle. L'emplacement exact de la salle en question n'est pas ce qui nous occupe pour l'instant. Il nous suffira de dire que, dans cette salle plus qu'ailleurs, la seconde fondation était une réalité tangible. Au cours des siècles qui avaient précédé, cette salle avait toujours été le domaine réservé de la science pure. Et cependant, on n'apercevait dans son enceinte aucun de ces appareils que, par une habitude d'esprit vieille de plusieurs millénaires, on associe toujours à l'idée de science. C'est que la science en question, contrairement aux idées reçues, était uniquement basée sur des concepts mathématiques abstraits. Elle était en cela étonnamment similaire à celle que pratiquaient les races très anciennes aux époques préhistoriques où la technologie n'était pas encore née, où l'homme n'avait pas encore étendu son emprise au-delà d'un monde unique, maintenant tombé dans l'oubli. Tout d'abord, il y avait dans cette salle, protégée par une science psychique que la puissance physique combinée du reste de la galaxie avait été jusqu'à présent incapable de combattre, le premier radiant, qui détenait dans ses parties vitales le plan Seldon dans sa totalité. En second lieu, il y avait également un homme dans cette pièce, le premier orateur. Il était le 12e du nom et assumait le rôle de gardien suprême du plan. Quant à son titre, il signifiait seulement qu'au cours des assemblées réunissant les chefs de la seconde fondation, il était le premier à s'exprimer. Son prédécesseur avait vaincu le mulet, mais les vestiges encombrants de cette bataille gigantesque menaçaient toujours de faire dévier le plan. Depuis 25 ans, avec le concours de son administration, il luttait pour ramener une galaxie composée d'êtres humains stupides et bornés dans le droit chemin. Tâche titanesque s'il en était. Le premier orateur leva les yeux vers la porte qui venait de s'ouvrir. Tandis que, dans la solitude de la salle, il revivait ce quart de siècle de labeur qui, avec une inexorable lenteur, approchait de son point culminant, son esprit n'avait cessé d'envisager, avec un sentiment de quiète impatience, l'arrivée du nouveau venu. Un jeune homme. Un étudiant. Un de ceux qui pourraient peut-être prendre un jour la relève. Le jeune homme s'était arrêté sur le seuil. Il semblait hésiter. De guerre lasse, le premier orateur se porta à sa rencontre et le fit entrer la main amicalement posée sur son épaule. L'étudiant eut un sourire auquel le premier orateur répondit en disant « Je dois d'abord vous donner les raisons de votre présence ici. » Ils se trouvaient maintenant en face l'un de l'autre, de part et d'autre de la table. Aucun n'employait, pour s'exprimer, un langage qui pût être reconnu comme tel par quiconque n'était pas lui-même membre de la seconde fondation. À l'origine, le langage articulé constituait le moyen grâce auquel l'homme avait appris à transmettre, bien imparfaitement, les émotions et les idées issues de son esprit. En choisissant arbitrairement des sons et des combinaisons de sons pour traduire les nuances de la pensée, il avait mis au point une méthode de communication, certes, mais une méthode dont le caractère sommaire et grossier avait provoqué la dégénérescence d'un intellect rompu à toutes les subtilités, avant d'aboutir à un moyen de communication rudimentaire et gutturale. Décadence sans cesse accentuée, dont on peut mesurer les résultats. Toutes les souffrances dont l'humanité a été la victime peuvent être imputées au seul fait que, dans toute l'histoire de la galaxie, nul homme, avant Harry Seldon et quelques rares disciples après lui, ne fut véritablement capable de comprendre son semblable. Chaque être humain vivait derrière un mur impénétrable, un brouillard étouffant, en dehors duquel nul autre que lui n'existait. Parfois, quelques faibles signaux émergeaient des ténèbres de la profonde caverne où chacun se trouvait enfoui, et leurs mains d'aveugles se rapprochaient les unes des autres, à tâtons. Et cependant, parce qu'ils ne se connaissaient pas l'un l'autre, parce qu'ils ne pouvaient se comprendre, parce qu'ils n'osaient pas se faire mutuellement confiance et nourrissaient depuis leur plus tendre enfance les terreurs et l'insécurité nées de cet ultime isolement, ils éprouvaient cette crainte de l'homme traqué par l'homme, cette sauvage rapacité de l'homme pour l'homme. Pendant des dizaines de milliers d'années, les pieds avaient foulé cette boue qui collait à leurs semelles et maintenaient au niveau du cloaque leurs âmes qui, pendant un temps équivalent, avaient été dignes de la fraternité des étoiles. D'instinct, l'homme avait pourtant tout tenté pour s'affranchir du langage articulé. La sémantique, la logique symbolique, la psychanalyse, autant de méthodes par lesquelles il avait été possible d'affiner, voire de transcender la parole. La psychohistoire avait représenté l'ultime développement des sciences psychiques, ou plutôt sa traduction finale en formule mathématique, grâce à quoi le but avait enfin été atteint. Grâce au développement des sciences mathématiques indispensables pour comprendre les phénomènes de la neurophysiologie et de l'électrochimie du système nerveux, qui trouvaient elles-mêmes nécessairement, leur source au sein des forces nucléaires, il devint pour la première fois possible de développer la psychologie. Et avec la généralisation des connaissances psychologiques de l'individu au groupe, la sociologie put également être traduite en formules mathématiques. Les groupes humains les plus vastes, les milliards d'hommes qui peuplaient les planètes, les milliers de milliards d'hommes qui peuplaient les secteurs galactiques, les milliards de milliards d'hommes qui peuplaient la galaxie tout entière, devinrent non plus des êtres humains, mais des forces gigantesques, soumises aux lois des grands nombres et aux interprétations statistiques. Si bien qu'aux yeux de Harry Seldon, l'avenir devint une chose prévisible, inévitable, et que le plan put être édifié. Cette même évolution des sciences psychiques, qui avait eu pour aboutissement le plan Seldon, dispensait le premier orateur de faire appel au langage parlé pour s'entretenir avec l'étudiant. Toute réaction à un stimulus, si faible fut-elle, révélait clairement les mouvements les plus subtils, les courants les plus infimes dont le cerveau de l'interlocuteur était le siège. Le premier orateur ne percevait pas d'instinct les fluctuations émotionnelles de l'étudiant, ainsi qu'aurait pu le faire le mulet, car celui-ci était un mutant doué de pouvoirs psychiques dont la compréhension demeurait inaccessible au commun des mortels, voire à un membre de la seconde fondation. Il les obtenait plutôt par déduction, par suite d'un entraînement intense. En conséquence, puisqu'il est essentiellement impossible, dans une société basée sur le langage articulé, de décrire les moyens de communication utilisés entre eux par les membres de la seconde fondation, nous prendrons le parti de les ignorer. Nous supposerons que le premier orateur s'exprime de la manière habituelle. Et si la traduction n'est pas toujours entièrement fidèle, elle est du moins la meilleure que l'on puisse fournir en l'occurrence. Nous supposerons donc, pour les besoins du récit, que le premier orateur, même s'il n'avait pas le moins du monde souri à son interlocuteur, s'il n'avait pas même levé le petit doigt, et s'il n'avait pas davantage ouvert la bouche, nous supposerons donc qu'il avait effectivement prononcé les paroles suivantes. « Je dois tout d'abord vous informer des raisons de votre présence ici. » Jusqu'ici, la quasi-totalité de votre existence a été consacrée à l'étude rigoureuse et appliquée des sciences psychiques. Vos professeurs n'ont plus rien à vous apprendre désormais. Le moment est venu pour vous et quelques-uns de vos condisciples de commencer votre apprentissage. Tout vous destine à l'oratoria.
Mouvements divers de l'autre côté de la table.
Voyons, voyons, reprenez votre sang-froid. Vous aviez formé l'espoir de vous qualifier pour ce poste. Vous avez craint de ne pas posséder les qualités requises. En réalité, l'espoir et la peur sont des faiblesses. Vous saviez parfaitement que vos capacités étaient suffisantes, et cependant vous hésitez à l'admettre, dans la crainte d'être taxé de présomption, ce qui serait une cause d'élimination. Ça n'a aucun sens. L'homme le plus stupide est celui qui n'est pas conscient de sa sagesse. La conscience même que vous avez de vos qualités
n'est qu'un point de plus en votre faveur.
Détente de l'autre côté de la table.
Exactement. Maintenant, vous vous sentez mieux et vous abaissez votre garde. Vous êtes plus apte à vous concentrer et plus apte à comprendre. Souvenez-vous que pour atteindre à une véritable efficacité, il n'est pas nécessaire de maintenir votre esprit enfermé sous une chape de plomb, de vous trouver ainsi sur la défensive. Un sondeur mental avisé tirera autant d'enseignements que si vous lui livriez un esprit sans défense. J'estime, au contraire, qu'il sied de cultiver une innocence, une conscience de ses atouts personnels, une candeur consciente et sans égoïsme, qui ne laisse plus rien de caché. Mon esprit vous est largement ouvert. Qu'il en soit de même pour chacun de nous.
Ce n'est pas chose facile que d'être orateur, poursuivit-il. Avant tout, il n'est pas aisé d'être psychohistorien. Et le meilleur des psychohistoriens ne possède pas nécessairement les qualités requises pour faire un bon orateur. Il existe à ce point de vue une distinction. Un orateur doit non seulement être rompu aux subtilités mathématiques du plan Seldon, mais avoir foi en lui et en ses destinées. Il doit aimer le plan d'un amour sincère et sans partage. Le plan doit être pour lui l'essence même de la vie. Mieux encore, un ami de tous les instants.
Savez-vous quel est cet objet ?
Le premier orateur promenait doucement sa main au-dessus du cube noir et brillant disposé au milieu de la table, un cube ordinaire sans aucun signe distinctif. Non, orateur, je l'ignore.
Vous avez bien entendu parler du premier radiant.
C'est cela ? S'étonna-t-il.
Vous vous attendiez à quelque chose de moins prosaïque, de plus impressionnant. C'est bien naturel. Cet objet fut créé à l'époque de l'Empire par des contemporains de Seldon. Depuis près de 400 ans, il a fidèlement rempli son office sans nécessité ni réparation ni révision. Fort heureusement d'ailleurs, puisqu'aucun membre de la seconde fondation ne possède les connaissances techniques nécessaires.
Il eut un léger sourire.
Les gens de la première fondation seraient peut-être en mesure de le reproduire, mais il ne faut surtout pas qu'ils connaissent son existence, bien entendu.
Il actionna un levier sur le côté de la table et la pièce fut plongée dans l'obscurité. Peu après, les deux parois principales de la salle, deux longs murs rectilignes, se mirent à luire progressivement. Leur surface, d'un blanc nacré, immaculée tout d'abord, finit par sombrer, ici et là, de motifs indistincts qui, peu à peu, se transformèrent en équations d'un noir d'encre, finement tracées, avec çà et là une ligne rouge de l'épaisseur d'un cheveu qui serpentait à travers la forêt des symboles, tel un ruisseau dans un sous-bois.
« Venez, mon garçon. » « Approchez-vous du mur. Vous ne projetterez aucune ombre. Cette lumière n'émane pas du radiant selon le processus ordinaire. À dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de la manière dont cet effet est obtenu. Mais vous ne projetterez aucune ombre, j'en suis certain.